Bonjour à tous, vous êtes sur Art District Radio et vous écoutez Jazz Interview. C'est Julie Chaise-Martin et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à mes côtés Christian Bonnet, saxophoniste, discographe, membre de l'Académie du Jazz et président de la Maison du Duke. Bonjour Christian Bonnet.
Bonjour Julie.
Merci beaucoup donc d'être avec moi aujourd'hui. Je précise que vous avez été également directeur de la collection Masters of Jazz et responsable de la collection Cabu Masters of Jazz. Cabu d'ailleurs qui était votre ami et un grand fan de jazz. Aujourd'hui, ensemble, nous allons parler d'un des plus grands, Louis Armstrong. À l'occasion de la sortie de l'album The Standard Oil Sessions, produit par le label new-yorkais Dot Time Records, et qui rassemble des enregistrements inédits réalisés par Louis Armstrong et ses musiciens en 1950 pour une émission de radio dédiée à la jeunesse. Et ce qui est intéressant, on va le voir ensemble, c'est que ces enregistrements font partie de la collection personnelle de Louis Armstrong, conservée au Louis Armstrong House Museum à New York. Alors Christian Bonnet, vous avez écouté ces enregistrements que nous diffusons d'ailleurs actuellement sur notre antenne. Alors bien sûr, il y a des titres que l'on retrouve, mais joués ici dans un contexte bien particulier, lors d'une émission de radio. Et puis il y a peut-être des titres un petit peu moins connus. En tout cas, ce qui rend effectivement intéressant ces enregistrements, c'est d'une part effectivement le contexte dans lequel ils ont été réalisés, et puis la qualité aujourd'hui sonore qui est retranscrite grâce donc au travail du label Dot Time Records. Est-ce que vous pouvez, Christian Bonnet, pour commencer cette interview, eh bien, en tant qu'expert du jazz, de dénicheur de perles rares et d'inédits également, nous dire votre ressenti sur cet album.
Alors, la première impression est extrêmement favorable, la deuxième d'ailleurs aussi, et la finale est tout à fait excellente. Elle est tout à fait favorable parce que d'abord, il y a une très très belle qualité d'enregistrement, il faut le reconnaître, c'est un enregistrement qui a été soigné, qui a été bien préparé. Il est très intéressant à plusieurs titres. D'abord parce que Louis Armstrong a emmené en Californie quelques-uns, mais pas tous, de ses musiciens réguliers. Il a emmené le tromboniste et chanteur Jack Teagarden, un de ses vieux, ses compagnons de route favoris, et il a amené également son pianiste Earl Hines. Pour le reste, disons que les places disponibles ont été attribuées à des musiciens locaux, qui s'en tirent d'ailleurs pas mal du tout. Il y a un guitariste, là, d'ailleurs, un guitariste de San Francisco qui est excellent, et un clarinettiste plus anonyme, enfin, qui assure bien, un bassiste et un batteur non identifié, mais c'est assez intéressant d'entendre et de constater avec quelle maestria tout ce petit monde s'entend dans le répertoire armstrongien et comment le roi Louis, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, Louis c'est le roi du jazz, il a créé le jazz, le Armstrong, il a inventé le solo, c'est vraiment toute la musique populaire du XXe siècle et de celle d'aujourd'hui encore vient en grande partie de lui. C'était vraiment un personnage extraordinaire, ce petit orphelin de la Nouvelle-Orléans, qui s'amusait à tirer des coups de pistolet, ce qui lui a valu d'être mis dans une petite maison pour orphelins, ou là où il a appris le cornet et la trompette, etc., avec un maître qui était très attentionné et qui lui a trouvé ce talent phénoménal, ce petit gamin des taudis de la Nouvelle-Orléans qui est devenu un génie de la musique et qui tout seul a créé ce monde musical absolument formidable. C'est ce que
révèle aussi ces enregistrements, c'est-à-dire qu'on sent la personnalité d'Armstrong aussi.
La personnalité d'Armstrong, bien entendu. En plus, c'est une période très intéressante de sa carrière parce que après ses débuts dans les années 20, Armstrong s'est un petit peu cherché. Il était dans l'orchestre de King Oliver. Ensuite, bon, il a eu son heure de gloire, évidemment, tout de suite, qui est arrivée. Et il s'est entouré d'un grand orchestre, comme ça faisait à l'époque. Dès la fin des années 20, il était seul devant son grand orchestre. Il chantait. Il jouait de la trompette, bien entendu. Il était accompagné par un grand orchestre qui était à ses pieds, si on peut dire. Et jusqu'en 1946, il a été accompagné par ce grand orchestre qui lui servait d'écrin, de mise en valeur.
C'est-à-dire qu'il était à la Nouvelle-Orléans, mais il a aussi évidemment été partout.
Il était parti de la Nouvelle-Orléans depuis longtemps, bien sûr. Il avait commencé à vivre une carrière internationale. Il était venu en France en 1933, etc. Il était déjà une star internationale. Mais il avait cette spécificité d'être accompagné par un orchestre, un big band, comme on dit, un grand orchestre, bien sûr, qui lui servait d'écrin et de mise en valeur. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que lorsque Lou Armstrong a tourné en 1945 un film qui s'appelle New Orleans, qui est un nanar de première, alors là c'est un nanar vraiment comme on n'ose plus en faire aujourd'hui, je crois, mais qui présente l'avantage extraordinaire de présenter Louis Armstrong jouant son propre rôle. Et en plus, à côté de qui ? À côté de Billie Holiday.
Ah oui.
Billie Holiday qui, elle, ne joue pas son propre rôle, qui joue le rôle d'une soubrette, évidemment, comme c'était réservé aux Noirs à Hollywood à cette époque. Et oui, ça, c'est l'Amérique. L'Amérique des années 30, 40, 50, 60, 70, etc. Bon, ça a un peu changé, mais bon. Et pour les besoins de ce film, Armstrong, on a accolé, si je puis dire, à Armstrong, un espèce de All-Star, deux musiciens d'origine de la Nouvelle-Orléans. Il y avait Barnaby Gare, il y avait Kidori, et entre autres Charlie Bill qui était un Californien. Mais enfin, disons qu'on lui a fait retrouver un petit peu ses racines. Et c'est ce qui a donné à Armstrong l'idée de reformer, de dissoudre son grand orchestre, ce qu'il a fait en 1946, et de recommencer à tourner, à se produire avec un All-Star
beaucoup
type Nouvelle-Orléans, voilà. Beaucoup plus réduit, absolument. Alors la formation classique du jazz traditionnel, c'est-à-dire trompette, Armstrong bien sûr, trombone, clarinette, piano, basse, contrebasse et batterie. Et alors ça a donné lieu à un certain nombre de chefs-d'œuvre. Et on arrive à cette période-là. Et cette période-là est d'autant plus intéressante que les producteurs de Louis Armstrong, les gens qui le font travailler, les tourneurs, etc., commencent à lui faire rencontrer. Je pense que d'ailleurs la rencontre avec Billie Holiday dans le film New Orleans a dû donner des idées à certains. Et en 1949, il retrouvera en studio Billie Holiday. Et en 1950, peu de temps après ces enregistrements que nous avons sous les oreilles, si je puis dire, là, de Dot Time Records, peu de temps après ces enregistrements, il enregistrera avec Bing Crosby, il enregistrera avec Ella Fitzgerald pour la première fois, et avec Louis Jordan. Enfin, il y a une série de rencontres
qui est un peu historique. De jazz.
C'est des moments à marquer d'une pierre blanche, et c'est aussi le départ d'une nouvelle carrière encore plus populaire d'Armstrong, puisque à partir de cette époque-là, c'est même en cette année 1950 qu'il va enregistrer des chansons vraiment à succès comme La vie en rose, C'est si bon, qui vont asseoir sa réputation internationale. Il va complètement déborder le public classique du jazz pour avoir vraiment un succès populaire mondial. C'est à peu près à cette époque. C'est pour ça que ces enregistrements sont extrêmement intéressants, entre autres.
Alors justement, parce que ce All Stars, en fait, il évolue entre 1948 et 1951, en tout cas avec Jack Teagarden et Earl Fatha Hines. Donc Jack Teagarden, il est tromboniste, Earl Fatha Hines, il est au piano, et on entend en fait donc Louis Armstrong avec ces deux musiciens précisément dans ces enregistrements. Ils se parlent, il y a beaucoup d'humour aussi, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de jeu. D'ailleurs, ils sont à San Francisco, mais ils font croire qu'ils sont à la New Orleans, donc c'est vraiment intéressant aussi de les entendre.
Oui, évidemment, il y avait une complicité formidable entre Louis Armstrong
et ces
cats. Alors les cats, ce sont à la fois les musiciens et puis les amateurs dans le coup. Bon, les amateurs qui connaissent les fameux cats, effectivement. Il y a un dialogue qui s'installe. C'est à la fois une espèce de mini-concert. C'est à cheval entre le concert, l'émission de radio, l'enregistrement de studio. Il y a une décontraction formelle qui est assez amusante. Et puis, évidemment, la musique est d'une qualité extraordinaire du fait de la présence de Earl Hines, Jack Teagarden et Louis Armstrong, évidemment, qui s'entendent comme larron en foire sur un répertoire bien connu de tous les trois, bien entendu.
Alors justement, Christian Bonnet, vous nous proposez d'écouter en premier dans cette émission le titre Strutting with Some Barbecue. On l'écoute tout de suite et puis ensuite on en dira un petit mot. Thank you. Alors, retour dans l'émission Jazz Interview avec Christian Bonnet. On vient d'écouter le titre Strutting with Some Barbecue, donc enregistré à San Francisco dans les années 1950. Pouvez-vous nous dire ce qui vous plaît dans ce titre ? Quel est-il ?
Alors, Strutting with Some Barbecue, il faut signaler, c'est un fait rare, non, mais pas très fréquent. C'est un morceau qui a été composé par Louis Armstrong dans les années 20. Louis Armstrong est connu évidemment comme chanteur, comme trompettiste, improvisateur exceptionnel, mais on ignore aussi qu'il a été un compositeur de talent. Et ça, on ne le souligne absolument jamais. Strutting with Some Barbecue est une de ses compositions sur une structure de 32 mesures, enfin bon, tout à fait classique, mais avec une ligne mélodique qui lui est propre et qui est très armstrongienne. Armstrong a composé comme ça un certain nombre, une douzaine de thèmes. C'est pas son métier de la composition, mais quand il s'y attelait, ça donnait de très jolis résultats. Et Strutting with Some Barbecue en est un parfait exemple. Alors, c'est aussi un parfait exemple de l'expression de la musique de la Nouvelle-Orléans telle qu'on la pratiquait, disons, post-Nouvelle-Orléans, peut-être pas dans les années 10 et 20, mais en tout cas dans les années 30 et 40, donc avec le fameux triumvirat, le fameux trio trompette, clarinette, trombone. Alors il y a une improvisation collective, et puis il y a un solo de Earl Hines qui est absolument brillant, toujours au piano, qui est plein de surprises, plein de tris, de choses trappes, son piano anguleux et à souhait. Enfin bon, c'est un vrai bonheur d'entendre Earl Hines au piano, toujours. On entend Armstrong, un magnifique sono. Alors Armstrong, c'est l'empereur. Il domine son monde, c'est vraiment extraordinaire. Il a une présence, une force. Je réécoutais, on n'écoute pas assez Armstrong, on n'écoute pas, c'est de lui que tout vient.
Oui, c'est une influence extraordinaire.
Ah, c'est vraiment lui qui a créé le jazz, il faut, et la musique populaire en grande partie. Et je veux dire, quand il souffle dans sa trompette, quand on entend une note d'Armstrong, il y a une telle intensité, il y a une force d'expression qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et c'est vrai que quand elle a fait irruption dans le monde du jazz dans les années 20, il était absolument unique. Il y a un seul personnage, peut-être, qui avait un style arrivé à maturité de soliste aussi fort, peut-être c'est Sidney Bechet dans les années 20. Mais qui n'a pas tout à fait la même carrière d'Armstrong, pour des raisons un petit peu personnelles. Bon, sinon qu'il avait un caractère assez particulier. Bon, mais en tout cas, Armstrong, c'est dès qu'on l'entend, tout de suite, il domine son monde. Il a une telle puissance, une telle majesté, une telle façon d'articuler chaque note, de la faire vibrer, de la faire vivre. C'est vraiment tout à fait exceptionnel. On ne peut pas. Et on entend et l'ami Teagarden, Jack Teagarden au trombone, qui est un styliste extraordinaire du trombone, très très singulier. Alors lui, il n'a pas appris à jouer du trombone dans le conservatoire, c'est évident. Il a une sonorité d'une qualité qu'on pourrait qualifier de nasale, je pense, mais tout à fait émouvante, et puis un phrasé, une vélocité à la fois, et un feeling. Ah, moi, je suis toujours en admiration devant ces musiciens. Et puis, bien sûr, la collective, où on entend tous les trois se sont donnés à cœur joie, avec Armstrong qui mène ça, avec l'entrain et l'autorité, évidemment, qu'il a toujours eu. Je crois que c'est vraiment de 4 minutes de bonheur, comme savait en donner le roi Louis.
Alors justement, ce surnom de Satchmo, il vient d'où, puisque ça évoque sa manière de souffler dans la trompette.
Satchmo, oui. En fait, oui, Satchmo. Alors, on l'a beaucoup appelé Satchmo pendant les années 20, 30, 40. Avec les années 50, il a changé de surnom. Tout le monde l'appelait Pops. Pops. Pops, c'est le diminutif de papa. Alors, pour revenir à Satchmo, Satchmo, c'est une contraction de Satchel Mouth. Satchel Mouth, c'est une bouche en forme de porte cochère. Alors, on attribue ça, oui, au fait que, bon, il avait des lèvres formidables pour jouer de la trompette, et quand il chantait, peut-être qu'il découvrait ses dents, ou il avait une façon peut-être, enfin, Satchmo, bon, ça sonnait bien, c'est tombé en désuétude dans les années 50 pour laisser la place à Pops. Mais l'origine, c'est Satchel Mouth, bouche en forme cochère, en forme de porte cochère. Voilà. Bon, c'est un peu mystérieux, à vrai dire, l'image est un petit petit peu curieuse, mais c'est ce que ça veut dire.
C'est resté, en tout cas.
C'est resté, en tout cas. Et Satchmo, il a, pendant toutes les années 20, 30, c'était Satchmo, 40, 50, jusqu'à ce que le Pops prenne sa place.
Alors, justement, on écoute maintenant le deuxième morceau que vous voulez écouter avec nous aujourd'hui, Christian Bonnet. C'est une sorte de ballade qui s'appelle « Do you know what it means to miss New Orleans ?»
Now, Matt, you know, as long as we're here in New Orleans, I want you to come down to a place where they have not only the finest red beans and rice and those ribs, but they've got some cats there that you've got to meet.
Cats?
Believe me.
What's cats, Jack?
Cats? Man, they're the place that make the jump joint, you know? The joint jump and vice versa.
Well, Jack, listen, I'm not sure exactly what you mean by
that. Well,
I'm
not sure what I mean either, but I want to make you acquainted with some friends of mine.
All right.
Here's the king of the cornet, believe me. Louis Satchmo Armstrong. Meet Map the Mapmaker. Will you, Louis?
Daddy. Well, I'm certainly glad to meet you, Mr. Armstrong. It's a pleasure.
It's a pleasure to be here, Daddy.
And right here is Mr. Jackson Teagarden.
Mr. Teagarden. Very happy to know you, Mr. Teagarden.
Thank you.
Mr. Earl Father Hines.
Earl Father Hines. Have I heard a lot about you, Earl?
Oh, that's good.
We haven't got a number yet.
Piano for us, huh? Yeah. I brought Map out here, all the way out here from California, just to hear you boys play. Now, how about showing them what I mean with, do you know what it means
you want
to miss New Orleans?
Yeah, okay. Well, let's chirp it first, huh?
Do you know what it means to miss New Orleans?
Of course I do.
And miss it each night and day.
I know you're not wrong. The feeling's getting stronger the longer we stay away.
Yes, as the moss call it vines, the tall sugar pines.
Oh, we grow 'em tall.
The mockingbird seems to sing.
And I'd like to see the lazy Mississippi a-hurrying into spring.
Oh, the Mardi Gras, the memories.
Now that's when things start jumping.
Of Creole tunes that fill the air.
Oh, I'm homesick, Gate.
I dream of old Deanders and June.
I dream about cornbread every night.
I'm wishing that I were there.
Do you know what it means?
You know it, I
to miss New Orleans.
About them red beans.
When that's where you left your heart.
There's something more.
Something else?
I missed it when I came. More than I miss New Orleans.
Now blow it pretty, Jackson. Blow it pretty.
Do you know what it means to Miss New Orleans de messieurs Alter et Delange, qui a été composé justement pour le film dont on parlait tout à l'heure, le fameux New Orleans. Et dans New Orleans, il chantait en duo avec Billie Holiday. Et là, il a gardé cette chanson à son répertoire, cette chanson-là a accroché son oreille, il l'a gardée au répertoire de son orchestre, et dans cette version-là, il le chante en duo avec son complice Jack Teagarden, le tromboniste Teagarden, qui chante de sa voix paresseuse et traînante du Texas, et ça donne un mélange de voix assez savoureux, la voix rocailleuse, pardon, de Louis Armstrong est fabuleusement expressive, et puis cette voix un petit peu sensuelle de l'ami Jack Teagarden, qui dialogue, chacun 8 mesures, et qui se répondent, qui font des petits commentaires. Bon, on sent évidemment le talent, bien sûr, la musicalité, la jazz de ces musiciens, et puis une formidable complicité amicale, bien entendu, qui les unit.
Louis Armstrong and his All Stars, c'est un groupe qui va durer combien de temps, et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour Armstrong?
En fait, les All Stars de Armstrong vont perdurer jusqu'à la mort de Louis. Mm-hmm. Jusqu'à sa mort, Louis n'aura de cesse de mener son All Star. Je veux dire, j'ai été témoin moi-même d'un de ses concerts en 1970 au Palais des Sports, lorsqu'il est passé à Paris, en 1965, pardon, quand il est passé à Paris. Et il va parcourir le monde avec ce All-Star, évidemment, avec un personnel changeant, parce que bon, il y a certains musiciens qui s'arrêtent de jouer, d'autres malheureusement qui ne sont plus en état de jouer, d'autres qui meurent, etc. Et il va continuer à utiliser cette formule jusqu'au bout, et c'est à peu près celle d'ailleurs qu'on verra dans le film Hello Dolly dans les années 60, l'année m'échappe à peu près, et c'est avec cette formule là que de façon définitive il va parcourir le monde pour rencontrer un public toujours acquis à sa cause jusqu'à la fin, jusqu'en 1970, oui c'est ça, l'année de sa mort.
Alors, Christian Bonnet, vous qui connaissez bien tout ce qui est production jazzistique et même inédit, retrouver des inédits dans la collection personnelle de Louis Armstrong à New York, j'imagine que vous avez sûrement été voir le Louis Armstrong House Museum. En tout cas, est-ce que, effectivement, c'est un chantier difficile, parce qu'on sait qu'Armstrong avait vraiment le goût de garder, de collectionner, de garder les enregistrements et même des objets, on a des collages, etc. Donc ça aussi, c'est un autre aspect du personnage qui pensait finalement aussi à transmettre et à rester un peu dans l'histoire.
Oui, Armstrong gardait tout. Il avait ce côté, alors c'est très intéressant pour les historiens du jazz, c'est qu'effectivement, il empilait les objets. Il y a un livre qui est sorti récemment, enfin il y a quelques années, dont le nom m'échappe, mais qui est dans ma bibliothèque.
Et on le retrouvera.
on va le retrouver tout à l'heure. Et qui présente un peu tous ces objets un peu hétéroclites qu'il a assemblés au cours du temps, qui ont un rapport toujours avec la musique, bien, parce que bien entendu, la musique, c'est comme Duke Ellington, c'était sa maîtresse. Hein. Et Armstrong gardait aussi, aimait beaucoup s'écouter, écouter ses propres enregistrements, ce qui n'était pas le cas de tous les musiciens. Et il avait aussi, et ça c'est une mine pour les collectionneurs, il avait beaucoup de bandes magnétiques, à l'époque c'est comme ça que ça se passait, qu'il a conservées. Alors, je ne suis pas allé au Louis Armstrong Museum. En revanche, je sais qu'il y a un certain nombre de trésors qui y sont conservés. Et je pense qu'il y a effectivement parmi ces trésors un certain nombre de documents audio qui pourraient faire le bonheur des collectionneurs, et pas seulement des collectionneurs, et du grand public. La plupart quand même des enregistrements d'Armstrong, il faut savoir que c'est comme son... quand même relativement connu. Le personnage était suffisamment reconnu internationalement pour qu'il y ait toujours un enregistrement prévu, que ce soit un enregistrement audio ou même vidéo d'ailleurs, puisqu'à partir des années, même la fin des années 50, il y a pas mal de vidéos d'Armstrong qui circulent, des concerts, des rencontres, etc. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que L'essentiel de l'œuvre d'Armstrong, elle a été faite dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, les années 50 aussi. Mais à partir de la fin des années 50, disons que le renouvellement s'essouffle un petit peu, mm-hmm. et que la formule, bon, est toujours, c'est toujours le roi Louis qui parle, c'est toujours le roi Louis qui s'exprime, et ça, on est toujours très content de l'entendre. Mais c'est vrai que la formule a tendance à s'essouffler un petit peu. Alors ça, c'est un petit peu le critique là qui parle, mm-hmm. un petit peu l'amateur, il y trouve toujours son compte en écoutant Armstrong. Mais c'est vrai que si on prend un peu de recul, on se rend compte que il y a moins de renouvellement à partir du milieu des années 50 qu'il y en avait jusque là.
Si on revient à ces enregistrements donc des années du 20 janvier 1950 à San Francisco, donc restaurés, remasterisés par le label Dot Time Records, on peut dire un petit mot quand même du contexte radiophonique. C'était une émission dédiée à la jeunesse. Armstrong aussi avait cette volonté de parler à tout le monde, même aux jeunes.
Oui. Je crois qu'il faut relativiser. Louis Armstrong était quelqu'un d'extrêmement généreux, extrêmement gentil, il avait un caractère formidable, etc. Mais on a évoqué son enfance rapidement. Il venait d'une très, très modeste extraction, il était orphelin, c'était très compliqué. Bon, il a pas eu la vie facile. Il a pris sa revanche sur la vie. Et vous savez, quand on propose, quand on propose un contrat à un musicien, c'est rare qu'il refuse si le contrat est intéressant. Alors là, en l'occurrence, était impliqué dans l'opération, le producteur d'ailleurs de cette émission, de ce programme, c'est la compagnie pétrolière Standard Oil California, je crois, qui produisait. Donc, ne nous voilons pas la face. Là, il y avait des dollars derrière tout ça, évidemment. Mais je crois que c'était... Alors, ça a été fait à l'origine, ça devait être des émissions de radio. Et en fait, ce n'est jamais passé à la radio.
Ouais, c'est ça, oui.
Ça n'est jamais passé à la radio. Ça a été mis sur des radio transcriptions, c'est-à-dire des espèces d'acétates, des grands disques de 30 cm, c'est-à-dire l'équivalent de des vinyles 30 cm. Et finalement, ça a servi... dans un programme scolaire. Ça a été distribué dans les écoles pour faire connaître la musique américaine. C'était un vaste programme qui s'appelait, je crois, The Musical Map of America. Voilà. Et dans cette carte géographique de l'Amérique, il y avait évidemment une place pour le jazz, et c'est évidemment, à tout seigneur, tout honneur, à Louis Armstrong qu'on a demandé de remplir ce rôle.
Christian Bonnet, une dernière question. En tant que discographe, vous avez l'habitude d'aller dénicher. Hein, vous avez d'ailleurs créé une collection Masters of Jazz qui regroupe énormément de titres et d'inédits de très grands du jazz. Comment ça se passe? Où vous allez pour retrouver tous ces inédits? Comment vous faites vos recherches, en fait?
Alors en fait, ça a été mon rôle lorsque j'étais en charge, j'avais la responsabilité de Masters of Jazz, de d'abord localiser les spécialistes, parce que finalement, quand on cherche bien, on se rend compte qu'il y a à travers le monde des spécialistes pour chaque musicien. Vous avez des gens qui ont voué leur vie à faire des recherches pour un musicien particulier. Bon, je ne vais pas les citer tous, mais en France, il y a Irakli de Davrichevi pour Louis Armstrong, il y a Roger Richard pour Jelly Roll Morton, il y a Claude Carrière pour Duke Ellington. Et ce sont des gens qui... ont vraiment passé leur temps à creuser, à échanger avec les collectionneurs du monde entier pour vérifier que telle information était exacte, que tel morceau avait bien été enregistré tel jour, qu'il y avait tel invité dans l'orchestre tel jour, qu'un tel avait mal aux dents et s'était fait remplacer, et que le saxophoniste qui joue les quatre mesures de break à la fin de l'exposé du premier thème, c'est pas un tel, mais un tel cette fois-ci, parce que l'autre faisait la gueule ou était arrivé en retard au concert, parce qu'il s'était bourré la gueule la veille. Enfin bon, vous savez, et vous avez des tas de gens. Enfin bon, là, c'est je donne quelques petits exemples de ce type-là. Mais c'est vrai que vous avez des gens, beaucoup plus sérieusement, qui se sont penchés, parce qu'est-ce qu'ils ont le souci et l'exigence de l'exhaustivité. Et pour ça, effectivement, c'est un énorme travail. C'est un travail qui n'est jamais terminé, d'ailleurs. Mais mon travail, à moi, ça a consisté à dénicher, débusquer ces gens-là, ces personnes-là, et de mettre en valeur leur travail. Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à, dans Masters of Jazz à éditer un certain nombre d'intégrales par musicien et de révéler à peu près plus de 250 titres inédits, d'ailleurs, dans du temps de l'existence de cette collection.
Et vous avez aussi réalisé, en collaboration avec Cabu, qui était un fan de jazz, les Cabu Masters of Jazz. Il faut aussi comprendre, enfin, savoir que le jazz, voilà, il y a des passionnés, des érudits, mais il y a aussi beaucoup d'amateurs et d'artistes qui sont fans de jazz, et c'est cette rencontre aussi qui est intéressante, quand d'autres univers s'intéressent au jazz.
Oui, alors ça c'est... Bon, oui, vous faites allusion bien sûr à l'ami Cabu, évidemment. Et là, c'était des moments formidables. Je veux dire que c'est vrai qu'il nous... J'avoue que c'est que... Bon, il nous manque à tous, il nous manque énormément, tous les jours j'y pense. Et c'était un grand amateur de jazz. Combien de concerts n'avons-nous pas assisté ensemble, quand je l'ai vu taper du pied, taper dans ses mains, claquer du doigt, etc. Il aimait le jazz qui déménage. D'ailleurs, il y avait une émission sur une radio TSF Jazz, dans lequel il s'appelait le jazz qui déménage, qui était, dont il avait la responsabilité, dans lequel il présentait à chaque fois un ou deux morceaux de jazz chers à son cœur, un jazz roboratif comme il les aimait. Et c'est vrai que ça a été formidable, cette rencontre avec Cabu à la fin des années 80, lorsque nous avons commencé à collaborer, où je lui ai demandé s'il voulait bien mettre au service d'une collection nouvelle créée autour de lui, tout son talent et tout son amour du jazz. J'ai eu son acceptation immédiate et enthousiaste, et sa générosité formidable a tout de suite fait son œuvre, et on a pu sortir dans deux collections différentes environ une soixantaine de doubles CD d'anthologies de musiciens de jazz, dont Louis Armstrong bien entendu, d'ailleurs, qui l'a croqué comme beaucoup. Alors certains, ils le croquaient sur le vif, ce qu'il avait ce qu'il voyait en concert ou dans les clubs, etc. Et puis les autres, c'était par l'intermédiaire des photos, etc., bien entendu, qu'on regardait ensemble et qu'on sélectionnait de façon à servir de base à une esquisse, à un portrait toujours amoureux et toujours affectueux. Et puis, bien sûr, regorgeant, dégorgeant, éclaboussant de talent comme il en avait.
Alors, en pensant à Cabu, justement, on va écouter un troisième morceau. En se quittant aussi, Christian Bonnet, je vous remercie beaucoup. Hein. Je rappelle que vous êtes donc président de la Maison du Duke et membre de l'Académie du Jazz. Vous nous avez parlé avec passion de jazz et de Louis Armstrong aujourd'hui, en nous faisant aussi découvrir cet album inédit, The Standard Oil Sessions, donc retrouvé par le label Dot Time Records. Dernier morceau qui va nous accompagner sur notre au revoir, il s'appelle Panama. Pourquoi vous l'aimez particulièrement ?
Panama, je crois qu'on parlait de Cabu il y a tout de suite. Et je pense qu'effectivement, Panama, c'est un morceau comme l'aurait aimé Cabu. C'est un morceau sur un tempo assez enlevé. C'est un morceau dans lequel, effectivement, Louis Armstrong donne toute sa mesure. Et je crois que c'est un des morceaux, alors là, c'est un petit peu personnel, c'est un des morceaux qui m'a fait aimer le jazz. Assez curieusement, c'est un petit souvenir personnel. Je me souviens, mon père avait rapporté un disque, un vinyle 25 cm de Louis Armstrong à la maison. Et c'était un disque qui a été enregistré en 1950, donc à peu près à la même époque que celui-là. C'était un DECA et il y avait un morceau qui s'appelait Panama dessus. Et ce morceau-là, je me le passais en boucle parce que je l'adorais. Il était entraînant, il était swingant à souhait. Et Armstrong jouait d'une façon phénoménale. C'était absolument irrésistible. Et pour moi, Panama, c'est un petit peu... C'est le symbole, c'est vraiment ce qui représente pour moi un certain jazz, ce qui représente, disons, le jazz, allons-y. C'est-à-dire la bonne humeur, la joie de vivre, la rigueur aussi, le swing, bien entendu, l'émotion, qui est toujours là, et puis la jubilation. Jubilons, écoutons Panama et jubilons ensemble.
Merci beaucoup, un grand merci Christian Bonnet.
You've just heard the greatest exponent of scatsing, and there's the man that introduced and really really does that scat, you know?
Scat singing.
That's right. That's
Could you elucidate a little bit further, Jack?
It's a scat.
Scat. Well, I'll settle for that and go back to my music map of America. But
all right.
What?
By the way, what are you doing about that map of yours?
Well, I'm working on it real hard. But not at the moment, Jack. I'll say that. Not at the moment. Let's have some more of that music. What do you say, Jack? And how about something called Panama?
If you like playing Panama.
A favorite of mine. Lay it on. That's good.